Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 99.9, vous êtes dans Décibel. No go, let's go. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, pas de musique dans Décibel, mais plein de blabla et plein d'étudiants. Comme chaque semaine, tous les jeudis maintenant, eh bien, ce sera un décibel réservé spécialement aux étudiants de l'Université d'Artois sur les ondes du 99.9. Et ce soir, eh bien, on est en compagnie de Clément,
salut.
De Clara.
Carla.
C'est fait exprès.
Pas aimable comme d'habitude.
C'est fait exprès. Alexandre.
Bonsoir.
Et une petite nouvelle.
Bonsoir, je m'appelle Camille.
Donc, eh bien, bienvenue à vous. Alors, en vrac au sommaire de cette émission, Natacha Polony. Une immersion et la loi Macron.
La Macron.
Qui va commencer ? Alexandre, donc, il va nous parler d'un ouvrage.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet préoccupant à partir d'une chronique de Natacha Polony dans son livre « La France, ce pays qu'on abat », publié aux éditions Plon et qui regroupe toutes les chroniques de Natacha Polony de 2009 à 2014. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Natacha Polony est essayiste, journaliste au Figaro, ancienne chroniqueuse dans l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché », journaliste sur Europe 1 et plus récemment, elle a rejoint l'équipe du Grand Journal aux côtés d'Antoine de Caunes et de Jean-Michel Apathy. Alors dans son livre, il y a une chronique qui m'a beaucoup intéressée, qui a été publiée dans Le Figaro le 29 juin 2013 et qui s'intitule « Avec l'histoire et la géographie meurt une civilisation ». Alors cette chronique parle des mauvais résultats en histoire-géographie des collégiens, de leur désintérêt total par rapport à ce qui a pu se passer avant et de la société qui ancre les jeunes dans la consommation et la pulsion. D'abord, on a réalisé des études sur des collégiens pour tester leur niveau en histoire-géographie. Le constat est alarmant, un manque cruel de connaissances dans les deux matières. On indique aussi qu'il y a toujours moins de très bons élèves et toujours plus de jeunes, notamment totalement perdus. On se rend compte aussi que l'école ne remplit pas son rôle et qu'il y a clairement un déterminisme social puisque les meilleurs éléments ont avec eux les connaissances culturelles personnelles, c'est-à-dire la culture familiale. Natacha Polony critique donc l'éducation en disant que les institutions ne font plus leur travail et que les personnes qui sont privilégiées à la naissance, eh bien tout cela ressurgit. Alors pourquoi un tel échec ? C'est la grande question qu'on se pose dans ce livre. Eh bien Natacha Polony l'explique en disant deux choses. D'abord qu'il y a des méthodes pédagogiques affligeantes qui sévissent au primaire et au collège. L'éducation doit alors être remise en cause de ce point de vue. Et ensuite, la société qui fait tout pour ancrer les jeunes dans le présent de la consommation et des pulsions. On dresse dans ce livre un constat en montrant que les collégiens ne passent pas plus de 15 minutes à travailler l'histoire et la géographie pendant la semaine et qu'ils considèrent cela comme une discipline scolaire ennuyeuse au lieu d'être un environnement culturel permanent. Et la phrase qui revient souvent, c'est tout simplement « on s'en fout, on n'était pas né ». Et d'ailleurs, j'ai une petite citation par rapport à ça que je vais vous lire. « Les façades des immeubles et les monuments historiques qui les entourent ne leur parlent pas. Les paysages qu'ils traversent ne frappent pas leur œil. Les évocations des grands hommes glissent sur eux comme l'eau sur les plumes du canard. Mais ça ne nous intéresse pas, on n'était pas né ». Voilà ce que les jeunes disent par rapport à cela.
Quel réactionnaire.
La, la raison d'être de ces jeunes, c'est pas moi qui parle, je parle au nom de Natacha Polony, mais bien sûr, évidemment, je partage une grande partie de cette chronique et on en reparlera sûrement. En fait, la raison d'être de ces jeunes se résume à la satisfaction de leurs envies les plus dérisoires, comme par exemple acheter le dernier iPhone ou faire du shopping. Et on ne retrouve plus, hélas, cette curiosité d'esprit, cette volonté de toujours apprendre de nouvelles choses. Rien d'étonnant, dit Natacha Polony, quand on leur donne pour modèle Kate Moss ou Beyoncé. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un décalage entre le passé historique de la France et ce qu'on en fait aujourd'hui. Alors, j'ai une citation que j'ai perdue, donc on reviendra peut-être un peu après, on va... Déjà, vous laissez réagir. Tout ça pour dire que cette chronique en est une parmi tant d'autres qui montre comment la France se détruit petit à petit.
Eh oui, donc Natacha Polony qui critique l'éducation. Qui va critiquer Natacha Polony parmi vous? J'attends, j'attends
pas
vos réactions.
Moi, je t'ai vu grimacer. Bon, à certains moments.
Je suis pas très fan de Natacha Polony et de son côté réac. Ouais. Et prendre les jeunes pour un peu des abrutis, alors que voilà quoi.
Alors qu'elle est passée par là.
J'ai retrouvé le passage que je devais vous lire, donc je vais le faire. Les nouvelles technologies et l'accès qu'elles donnent à toutes les connaissances n'y changent rien. Nos jeunes n'iront même jamais y voir de plus près puisque nous les confrontons dans leur entre guillemets culture jeune, c'est-à-dire ce narcissisme simplet qui considère que tout ce qui est vieux est ringard et qu'il faut être résolument moderne, autrement dit frénétiquement inculte. Ce n'est pas seulement une question d'effondrement scolaire, et là attention, c'est la phrase que je préfère, c'est la destruction de nos racines et avec elle de notre avenir.
Voilà, c'est la fin du monde quoi en fait.
Non, c'est pas la fin du monde, donc petite question quand même par rapport à ça, d'après ce que vous vivez quotidiennement, c'est-à-dire avec les gens que vous côtoyez, est-ce que vous avez l'impression que l'éducation est en chute libre et que la France est en déclin?
Après, elle fait un constat très très alarmant et je pense qu'il faut vivre avec son temps et elle fait beaucoup de constats, mais apparemment elle donne pas beaucoup de pistes pour que ça aille mieux. Donc,
elle n'est pas politique, voilà, elle a fait des études.
Ah oui, non, mais les études,
elle a été prof aussi.
Oui, donc... non, mais quand on autant donner des solutions, parce que voilà, faire un constat.
Elle fait pas de politique.
Faire un constat alarmant, oui, c'est une chose. Bon, enfin voilà, faut vivre avec son temps et essayer de trouver les solutions et le pourquoi de comment. Donc,
Mais là, le temps n'est pas bon. Hein, là,
ce que
quand
je
même,
trouve assez paradoxal, c'est que oui, elle a été professeure, mais je trouve qu'il y a un énorme décalage entre la vision qu'elle a des jeunes et les jeunes que nous, on côtoie. Enfin. Enfin, dire que les choses qu'on s'intéresse pas aux choses ringard, etc. Déjà, je trouve qu'il y a rien de ringard. Mmh. On peut très bien s'intéresser à la culture d'avant qu'à la culture d'aujourd'hui. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Et non, je trouve que, enfin, je trouve ça dommage. Bah, après, pour l'histoire et la géographie, peut-être. Mais
est-ce que t'as pas l'impression, par exemple, de voir des jeunes qui sont désintéressés en ce moment? Par rapport à ça, et que finalement, à l'école, on n'apprend pas, on n'apprend plus l'histoire de France, on n'apprend plus des choses comme ça.
Tu vas un peu loin.
Ah,
non, là, tu mets tout le monde dans le même sac, tu fais une généralité, sachant que, oui, alors oui, très bien, il y a des jeunes qui sont comme ça, ça c'est sûr, mais il y a aussi des adultes, des personnes âgées qui sont tout autant comme ça, il y a des avis qui se créent, des personnalités qui se créent, et ça c'est à tout âge. Les jeunes, ok, il y en a qui sont comme ça, mais il y en a très bien
Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes qui peuvent être dans ce cas-là. Mais on ne peut pas englober tout le monde dans le même sac. Mmh. Et non, au contraire, en tant qu'élève de terminale, je peux dire qu'on travaille assez bien l'histoire de France. C'est pas une question de... Comment dire ? Je pense pas que ce soit vraiment un problème de programme, même s'ils sont beaucoup trop chargés, et ça, on le dit depuis très longtemps. Mais tout simplement une question d'envie, déjà, de certaines personnes, et puis aussi une question de professeurs. Il y a des professeurs qui font peut-être pas leur travail comme il faudrait, ou qui n'ont pas la passion. Je pense qu'une matière, ça se transmet par la passion. Il faut donner envie d'apprendre avant d'obliger les gens. C'est pas une obligation d'apprendre, en fin de compte. C'est quelque chose qui doit venir de nous-mêmes. Et donc, c'est comme agiter quelque chose devant nous, quelque chose qui peut nous intéresser, dire « Ah tiens, j'ai envie d'aller plus loin ». Et je pense que c'est comme ça que ça progressera. Mais faut arrêter avec ce discours alarmant qui est un petit peu exagéré, voire carrément côté de la plaque par rapport à l'image des jeunes qu'on a aujourd'hui.
Je suis tout à fait d'accord. Et ça reprend le fait que c'est aussi donner de l'envie aux jeunes d'apprendre. Donc c'est surtout à ceux qui font l'éducation de faire, pour moi...
Parce que les donc aux ministres.
Non, parce que les programmes en eux-mêmes ne sont pas idiots, même si...
C'est pas qu'ils sont idiots, c'est qu'ils sont pensés de telle façon, ils sont tellement académiques que forcément, je trouvais tout ringard également. Ça fait partie de la vie. C'est tout le monde, à un moment donné, trouve des choses ringards. Ouais. Ce qu'il y a de plus vieux que nous, c'est ringard. Vous n'allez pas me dire que l'accordéon, le musette, pour vous, c'est
alors
fun.
Je t'arrête tout de suite. Je suis accordéoniste, donc je t'arrête tout de suite.
Non, mais pour la plupart des gens...
Oui, mais là, ça n'a rien à voir. Le problème est beaucoup plus profond. C'est qu'en fait, on ne transmet plus la culture et on ne forme plus des citoyens. C'est-à-dire que...
Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Parce qu'on est là justement pour transmettre la culture, pour donner une autre image des jeunes, pour... Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ici?
D'accord, mais en tout cas, dans cette chronique, ce qu'on nous dit, c'est très clairement que, en fait, il y a des failles dans l'éducation nationale et que certains élèves, et d'ailleurs la majorité, d'ailleurs d'après les tests, on a dit que 57% ont raté des tests en histoire-géographie, eh bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ne se sentent pas concernés par ça et qui ne vont pas se reconnaître dans ces valeurs-là. Et c'est ça le problème. Et c'est qu'en fait, il y a un problème de transmission des cultures et que, évidemment, bien sûr, ça peut jouer un rôle sur la disparition de la civilisation et de beaucoup de points comme ça.
Ouais, alors mais par contre, quand tu la cites, on a l'impression que c'est les jeunes qu'elle critique et non pas.
Oui, voilà, c'est vraiment.
Elle critique les deux. Elle critique.
C'est ce que je voulais dire, mon côté ringard. C'est qu'aussi en surface, on a l'impression qu'elle dit les jeunes trouvent tout.
Non, elle dit pas ça du tout. Elle dit clairement que c'est le problème vient de l'éducation, que les méthodes sont affligeantes. Et elle critique aussi la société. Elle dit que la société ancre les jeunes dans la consommation et la pulsion. Exemple, ils préfèrent faire du shopping et aller acheter un iPhone plutôt que de passer plus de temps à apprendre leur histoire.
C'est terrible. C'est un véritable stéréotype.
Mais ça peut aussi être une réalité.
Oui, mais c'est une réalité pour une certaine catégorie de personnes. Il faut arrêter.
Comme avec chaque passion que quelqu'un peut avoir. Évidemment, tout le monde ne fait pas de la musique. Il y en a un
qui va acheter un iPhone. Ouais. Moi, je vais acheter une guitare. Ça dépend des gens. Puis déjà, pour avoir un iPhone, il faut avoir des sous, pour commencer.
Et les jeunes n'ont pas de sous, donc comment ils font?
Ce sera la question.
Bon, on va pas évidemment épiloguer, parce que ça fait quand même, le temps passe, on va donner la parole aux autres, mais c'est un débat plutôt intéressant. Alors, qui prend la suite? Eh bien, j'allais dire, non, je vais pas le dire.
Vas-y.
Une immersion, donc tu vas nous parler d'immersion, mais dans quoi?
Oui, alors à l'université d'Artois a eu lieu la célèbre et tant attendue journée d'immersion qui permet aux jeunes voulant venir à l'université de découvrir les cours en étant totalement immergés et mélangés aux étudiants d'art du spectacle. Comme j'ai un énorme cœur et que je suis pleine de générosité, je me suis proposée pour accueillir mais surtout affronter ceux qui seront nos descendants. Alors, comme toute bonne organisatrice qui se respecte, je me lève ce matin aux aurores afin d'arriver avant toutes ces petites nouvelles têtes. Quel moment amusant de voir tous ces petits visages encore timides et se demandant ce qui va leur arriver. C'est là que mon rôle de super nounou entre en scène. J'ai ainsi amené avec joie et bonne humeur ces petites gens à travers les recoins les plus secrets de notre fac. En parlant de ça, j'ai amené avec moi celle qui fut sans doute le moins traumatisée du rôle que j'ai tenu, celui de guide et d'accompagnateur. Alors voici Camille, qui est donc avec nous pour nous parler de son ressenti sur cette journée. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Alors vas-y, parle-nous de toi, ce que t'as aimé. Est-ce que je t'ai fait peur déjà aujourd'hui?
Non, franchement, elle a fait pire que ça.
Elle t'a parlé de Mademoiselle K.
La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais déjà casée là-dedans, c'était fini. J'étais déjà venue à l'avenir de l'Artois. Autant pour moi.
Bravo.
C'est fait. Publicité. J'étais venue à l'université d'Artois déjà l'année dernière pour justement une autre journée d'immersion que j'avais déjà beaucoup appréciée. Et cette fois-ci, je l'ai même encore plus appréciée parce qu'on a plus eu l'occasion de parler
pratique. Parce que j'étais là.
Il se la pète maintenant, ça.
Faut avouer.
On va couper ce passage, on va faire comme si elle n'avait rien dit. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de...
Voilà, c'est malin.
Non, c'est mon charme.
Tu me déstabilises, c'est terrible. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ben,
j'ai eu
l'occasion de plus profiter de cette journée, notamment au niveau de la pratique, où on a pu vraiment discuter avec des gens qui sont en deuxième année, en troisième année. Ce qui était assez marrant parce qu'on a, comment dire, on a des visions très différentes du théâtre et le tout assemblé, ça donne quelque chose d'hyper intéressant. Et je trouve que justement la licence d'art du spectacle, c'est quelque chose qui correspond vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans l'art en général. Je parle pas seulement des artistes, je parle de tous ceux qui sont derrière, qui sont, bon, je parle pas forcément de technique, mais tout ce qui est dans l'administratif pour gérer les théâtres, etc. Et c'est, ou même pour être prof, tout simplement. Et non, c'était hyper enrichissant et j'ai appris à voir le théâtre et cette licence complètement différemment, ainsi que l'université que j'ai pu redécouvrir vu qu'il y avait des domaines que je ne connaissais pas. Non, c'était vraiment sympa.
Tu veux venir l'année prochaine du coup?
Ben ça, c'est prévu par moment.
Ok, t'aurais pu dire oui grâce à toi, Carla, j'ai eu l'envie aujourd'hui de venir l'année prochaine, ouais. Te revoir.
Là,
à nouveau.
Tu jettes les fleurs avec le vase. Hein,
oui. Ah oui, très
non,
clairement.
Mieux
clairement.
Vaut qu'elle se jette des fleurs, il n'y a personne qui le fera pour elle.
Très bien, sur cette jolie phrase et ce magnifique compliment qui sera puni à l'arrêt de cette chronique, laissons place.
Eh ben, on va peut-être faire une petite pause musicale légère.
Musicale, alors, exactement.
Évidemment, on va passer du
Mademoiselle K.
Et alors, tu nous as choisi quel titre cette fois-ci?
Love Robots. Le 5.
La piste 5 de ce dernier album, hein, puisque oui. C'est le tout nouveau. Qu'on écoute tout de suite et on se retrouve après avec Clément pour parler de la loi Macron. Oui.
Un petit coup de gueule.
Spend the whole night sucking the others.
Mademoiselle K, donc avec ce titre qui s'appelle
Love Robots.
Bah voilà, tu l'as dit, c'est donc un dernier album et qui s'appelle, bah tu vas nous dire aussi, tiens, tant qu'à faire, puisque tu connais tout.
Hungry Dirty Baby.
Yes.
Yeah. Voilà.
Allez Clément, c'est à bon. Toi. Et ouais. Parlons économie.
Parlons économie. Je vais vous parler d'un sujet qui est médiatique, mais dont j'ai envie de passer un petit coup de gueule. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des dispositions de la loi Macron ou de son exécution forcée par Manuel Valls il y a la semaine dernière, ou bien des articles concernant le travail du dimanche qui constituent évidemment une réforme importante, mais qui reste très contestée. Car si cette loi va créer des emplois, des études l'ont prouvé, ce n'est pas ce qui sauvera la France. Ce n'est encore moins l'augmentation du tarif des actes d'huissier ou l'augmentation du nombre d'avocats, de notaires, de pharmaciens qui va redresser le navire France, le pouvoir d'achat et redonner le sourire aux Français. Alors pour résumer cette situation, pour nous, simples citoyens, en termes macroéconomiques, ça ne changera presque rien. Et oui, car les Français veulent du concret, du changement. Alors c'est devant tout ce déballage médiatique depuis plusieurs semaines que j'ai décidé de m'intéresser à ce nouveau projet gouvernemental, histoire d'avoir un vrai avis sur la question. Même si de mon simple avis d'étudiant, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Alors je rappelle que le texte est disponible dans son intégralité sur le site du ministère de l'économie, et que pour s'en faire une vraie idée, faut aller le lire. Alors moi je l'ai lu et je vais commencer simplement. Cette loi ne sera pas LA loi qui relancera l'activité économique de façon importante. Mais certes, l'idée elle était là. Celle que tous les Français réclament plus de travail. Mais bon, si, quand on se plonge dans le texte, on voit qu'il prévoit 5 à 12 dimanches travaillés dans l'année. Ce n'est pas ça qui va créer du travail durable pour les 3 500 000 chômeurs annuels. Donc on s'en doute bien, il se trame d'autres choses dans cette loi, infiniment plus passionnantes que ce qu'on nous dit. Donc j'ai décidé de vous passer quelques mesures peu médiatisées, mais d'une importance cruciale, qui font partie de la loi Macron. Alors première chose, il y a la privatisation massive et la réduction du droit syndical. Présenté comme cela, c'est déjà moins glorieux. Il est vrai qu'on ne peut ou ne pas aimer le syndicalisme, qui fait des choses pas toujours très belles. Mais il touche ici à un droit des travailleurs qui est l'ultime rempart démocratique face à l'offensive sans précédent du totalitarisme marchand. Alors voilà. En termes plus concrets, on parle aussi là de privatisation des entreprises publiques. Ah, ce vieux démon. Habillé dans l'expression « porteur d'un projet industriel », ce projet consiste en la revente de sociétés publiques, comme par exemple les aéroports de Lyon et de Nice-Côte d'Azur, comme ce fut le cas de Toulouse en octobre à des actionnaires chinois. Et oui, on nous en parle poids, mais quelques bruits circulent aussi sur la vente de GDF Suez, qui est juste le gazier de tout le pays. Alors voilà, ça c'est une réforme. Il y a aussi là une deuxième réforme, c'est la requalification du droit d'entrave. On vous en parle pas beaucoup, mais elle a été annoncée par le président de la République le 19 octobre dernier devant le Conseil stratégique de l'attractivité, et la loi Macron dit, je cite, « supprimer la peine d'emprisonnement associée au délit d'entrave, au motif que cette peine n'est quasiment jamais appliquée ». Alors pour petit rappel, le délit d'entrave est pour un employeur le fait de porter atteinte au droit syndical. Ce qui signifie qu'un patron pourrait licencier au motif qu'un ouvrier est syndiqué. Alors actuellement, le délit d'entrave est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €, mais cela, ça va disparaître. Alors oui, j'aurais pu vous parler des tas d'autres réformes, comme par exemple la réforme de la justice du travail, qui consiste en simplifiant la justice, ou bien de toutes les autres réformes, parce que la loi Macron, elle est vaste. Mais bon, ça serait trop long et trop vaste. Alors pour résumer, que faut-il retenir de la loi Macron ? Il faut bien avoir à l'esprit que cette loi est bien plus vaste, comme je le dis, et plus compliquée que on nous le dit, et que les effets ne seront pas aussi miraculeux qu'on ce qu'on nous fait croire. Alors à noter que cette loi est une réponse directe à Bruxelles, qui exigeait depuis plusieurs semaines l'application de cette loi afin de valider le prolongement du remboursement de la dette française. Et après, on nous dit que c'est pour la France. Mais oui, si cette loi peut en effet avoir des côtés positifs, qui va nous faire avancer, je ne vais pas vous l'apprendre, toute bonne chose positive a son côté négatif. Alors il me semble important de révéler certains aspects oubliés de ce projet de loi. Alors oui, mon discours n'est pas forcément politisé, bien au contraire, mais j'observe et j'essaie de voir tous les aspects d'une loi où on nous dit que c'est quelques aspects.
Un commentaire ?
Ouais, un commentaire, peut-être c'est vrai que la loi n'est pas parfaite, ça on est tout à fait d'accord, elle est très vaste, et c'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi, mais sinon pour revenir sur le travail le dimanche.
Ah, toi, t'es un fervent défenseur.
Je préfère ne pas parler du travail dimanche, parce que déjà, on a déjà fait un débat sur ça. Et puis, c'est pour ça, on nous parle que du travail le dimanche. C'est une réforme qui consiste que sur le travail du dimanche. D'ailleurs, 5 dimanches sur 12, qui n'est rien.
Mais on peut aller jusqu'au 12 si les maires en font la demande.
Dans le fond, il y a des choses beaucoup plus cruciales et qui touchent directement nous, simples citoyens. Parce que les 5 dimanches, il n'y en a pas beaucoup qui vont travailler. Ça concerne que peu de gens.
5 dimanches ou 12.
Oui, mais ça concerne que peu de gens. Alors que, par exemple, le délit d'entrave, ça concerne pas mal de travailleurs. La justice du travail, ça concerne pas mal. J'aurais pu vous parler aussi du bus, les transports en bus. Et voilà, il y a plein de choses qui touchent d'abord les citoyens, mais on nous parle d'une réforme économique vaste. Et voilà, on oublie de nous parler de certaines réformes. Et je trouve ça dommage.
Mais là, en fait,
oui, mais là, il y a quand même... Excuse-moi. Vas-y.
Là, ça, c'est même plus une question de réforme économique, ça devient carrément une réforme sociale. Et c'est ça le sérieux problème de...
Parce que ça touche part d'un ministre de l'économie.
Bah oui, voilà, c'est ça qui est assez paradoxal. Enfin, par exemple, pour le travail le dimanche, je suis plutôt d'accord. Enfin, si les gens ont le choix de travailler le dimanche, je suis plutôt OK. Mais c'est vrai que là, tu évoques des réformes dont j'en ai honnêtement pas entendu parler. Bon, après, je dois avouer que je m'intéresse pas trop à ce genre de sujet. Et oui, c'est assez alarmant, surtout au niveau du travail. Déjà qu'on est dans une situation où le travail cause problème. Si en plus on en rajoute une couche, on n'a pas fini.
Le problème, Clément, tu dis que ça ne va rien changer, que cette loi, voilà, que c'est juste un coup d'épée dans l'eau, etc. Mais le problème, c'est qu'on reproche aussi au gouvernement de ne jamais rien faire, de ne jamais rien tenter. Et là, quand le gouvernement fait quelque chose, essaye de changer la situation, on dit « Ah bah non, de toute façon, c'est pas grave, c'est que 5 dimanches, c'est que 5 dimanches, donc... »
Enfin, voilà. Changer pour changer, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de changer.
C'est quand même parce qu'on avançait le travail de proposer le travail le dimanche et de l'étendre jusqu'à.
Oui, mais là tu te bases que sur un seul critère.
Alors oui, non, mais là c'est parce qu'on parle du travail le dimanche. Bien sûr, on peut débattre évidemment d'autres choses. Là, j'ai pas apporté les chiffres et les informations sur les autres thèmes de cette loi. Mais là, si on parle uniquement du travail le dimanche et surtout de ce que tu as dit quand tu dis que ça ne va rien changer, je ne suis pas d'accord.
J'ai dit presque.
Oui, presque rien. D'accord.
Presque. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas ce qui va changer le plus.
Oui, mais bon, toujours est-il qu'il faut tenter et arrêter aussi de reprocher trop de choses au gouvernement qui essaye concrètement de changer les choses, même si, bon, on a des avis différents là-dessus.
Ouais, il y a quand même, un passage en force, ça coûte 49,3 et c'est pas la Doc Martens, hein, n'est-ce pas, Carla?
J'aurais une petite précision, pour quelqu'un qui fait du droit, c'est pas 49-3 comme beaucoup de journalistes le disent, mais article 43 alinéa 3, ce qui est insupportable quand on fait du droit et qu'on entend des choses pareilles à la télévision.
Bravo, bon. On va se quitter en musique avec...
Mademoiselle K.
Oh oui, encore. Magnifique.
On changera.
Merci à vous quatre donc pour ce décibel. On vous retrouve la semaine prochaine, ou presque.
Oui, la semaine prochaine.
Ou presque.
Ok, on se quitte avec Mademoiselle K, extrait de son tout dernier album. Et Carla va nous donner le titre.
Angry Dirty Baby.
Et voilà, c'est le titre éponyme de l'album. Bonsoir à toutes et à tous. Et restez sur le 99.9. Salut.
Bonsoir.
Ciao.